おかしい、おかしい。おかしい。
Bonsoir, bienvenue dans cette première édition de Trading de la presse de 2011 qui vous propose des thèmes à savoir. Révision constitutionnelle, la majorité propose la révision de 8 articles de la Constitution, dont l'article 71 relatif au scrutin présidentiel et l'article 110 relatif à la fin du mandat des parlementaires. Insécurité à l'université de Kinshasa, des morts et d'importants dégâts matériels, tel est le bilan des échauffourées entre étudiants et policiers hier jeudi sur le site de l'université de Kinshasa. Participe à ce débat trois confrères journalistes, il s'agit de Bélard Mbouy, il est éditeur du magazine Écho des Grands Lacs, un magazine qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Bélard Mbouy.
Bonsoir.
Yvon Mouya, il est journaliste à la radio-télévision Digital Congo, qui est né depuis Kinshasa. Bonsoir Yvon Mouya.
Et bonsoir Yvon.
Gaston Mouchid, il est directeur de la radio-télévision Manita et l'étant de la ville de Kolozi, au Katanga. Bonsoir Gaston Mouchid.
Bonsoir à vous-même et à tous les auditeurs.
Nous allons écouter cette revue de presse que nous propose Samuel Spatak pour savoir comment la presse a traité les différents thèmes retenus pour le débat de ce soir.
Bonsoir. Les journaux parus cette semaine à Kinshasa sont partagés entre deux faits, à savoir la révision de certaines dispositions de l'actuelle constitution et la tension hier jeudi à l'université de Kinshasa. Révision constitutionnelle, le dernier verrou a sauté depuis hier, titre de palmarès. Ce journal qui fait allusion au vote de cette proposition de loi au Sénat estime qu'à partir de ce soir au moins ou de demain au plus, 8 articles de la Constitution ne seront plus les mêmes. L'Observateur nous informe que la Chambre haute a voté ce projet de loi sans les sénateurs de l'opposition. La Prospérité de son côté qui estime que les carottes sont cuites au sujet de la révision constitutionnelle affirme que 72 sénateurs sur 81 participants ont souscrit au texte, un s'y est opposé et 8 se sont abstenus. Du reste, le Congrès met la dernière main aujourd'hui sur cette proposition de loi. La tempête des tropiques de son côté voit dans cette démarche une intimidation et tentative de musellement de l'opposition. Suite à la nouvelle dictature que veut instaurer la majorité au pouvoir, le consensus national vole en éclats, déplore ce quotidien. Une crise qui survient malheureusement à l'approche des échéances importantes comme les élections. Autre sujet à la une des journaux cette semaine, c'est la tension hier à l'université de Kinshasa. Des morts à l'unité titre le potentiel, exprimant leur mécontentement suite à la mort suspecte d'un des leurs, des étudiants de l'université de Kinshasa ont enclenché un mouvement de protestation lequel a dégénéré en affrontement sanglant avec la police. Ce mouvement s'est mué en vengeance sur tous ceux qui représentent le pouvoir public. Bilan provisoire, une douzaine de morts et de nombreux blessés parmi les étudiants, sans compter des casses et des véhicules brûlés, indique ce journal. Au regard de cette situation de l'unité, Forum des As voit une main noire et n'écarte pas l'hypothèse d'une manipulation politicienne. Un point de vue partagé par le quotidien L'Avenir qui indique que 2 pillards sont tués, 14 véhicules et 2 stations à essence incendiées et 500 ordinateurs pillés.
Merci Samuel Kachak pour cette revue de presse. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons d'écouter. Bélard Mbouy, je rappelle que vous êtes éditeur du magazine Écho des Grands Lacs, un magazine qui paraît ici à Kinshasa. Comment vous commentez le travail de la presse chinoise de cette semaine?
Bien, généralement, comme d'habitude, ils ont bien couvert l'actualité qui s'est déroulée dans la ville capitale. Mais il y a quelque chose qui me fait tiquer, moi, franchement, c'est ce que on ne se scandalise pas du fait que la police tire à balles réelles sur des populations civiles. On rapporte juste des morts à l'unité, il y a des tués à l'unité. Personne ne prend la peine de se dire scandalisé par cela. Donc la vie humaine au Congo a fini par être banalisée. C'est peut-être le résultat de toutes ces années de guerre, de toutes ces années de milliers et milliers de Congolais tués. Ça semble devenir un peu une sorte de fait banal, tragique, mais ça ne doit pas devenir un fait banal. Je pense que les Congolais sont tués
parle de balles réelles, ça doit scandaliser, ça doit être condamné. Lorsque les journalistes ont fini par rapporter, il y a des choses qui doivent aussi être condamnées.
Yvon Mouya, la presse a fait son travail. Comment vous, vous appréciez le travail de la presse institutionnelle?
Je parlerai plutôt de l'arrivée constitutionnelle dans cette revue de presse que je viens de suivre pour souligner un mot, le musellement de l'opposition tel que je viens de l'entendre. Je crois que le contraire est allé un peu plus loin parce que l'opposition, rien qu'à voir ce qui s'est passé au Sénat hier, à parler, mais c'est quelqu'un c'est l'empêcher de parler. Mais je crois que l'opposition s'est battue au niveau du Sénat, mais la loi comme souhaité et évité le débat sur la révision sur le fond du dossier, cela n'a pas été fait. Pour paraphraser un sénateur de la majorité hier, il a estimé lui que la démocratie s'est exprimée, que l'opposition a tout fait sans y parvenir. Donc, miséré, je pense qu'on va plus loin avec le mot quand même.
Je rappelle que vous êtes journaliste à la Radio-Télévision Digital Congo. Gaston Moussid, vous êtes directeur de la Radio-Télévision Manica, émettant depuis la ville d'Ecologie au Katanga. Et quelle est la qualité qui est à la une dans la province de Katanga cette semaine?
Il faut dire qu'il y a bien des choses qui se passent en province, mais la tension de Katangé est focalisée sur ce qui se passe à Kinshasa. Vous savez bien que quiconque que ce qui s'est passé au Sénat intéresse au plus haut point tous les Congolais, en particulier les Katangé. Le fait que il a été adopté une révision constitutionnelle, ça ne devait pas ne pas intéresser les Katangé. Donc je trouve ça plus intéressant, mais il y a un procès en cours, hein. Il y a eu tuerie dans la province entre un homme et son beau-frère, et puis il y a des procès qui se font, ça c'est ce qui est très Katangé, mais en général les gens sont plus intéressés par ce qui s'est passé au Sénat hier.
Même les provinces sont intéressées par ce qui se passe ici à Kinshasa. Nous abordons notre premier thème de ce soir, révision constitutionnelle. La majorité propose la révision des 8 articles de la Constitution, dont l'article 71 relatif au scrutin présidentiel et l'article 110 relatif à la fin du mandat des parlementaires. Le Sénat a voté hier jeudi pour la révision constitutionnelle à une large majorité, comme à l'Assemblée nationale. L'opposition au Sénat n'a pas participé à ce vote. Pour le sénateur Henri Thomas Lokondo, la révision constitutionnelle n'est pas aussi grave qu'on le pense. Plusieurs pays du monde organisent des scrutins présidentiels en essai de tour. On écoute au micro de Julien Niamoni.
Beaucoup de gens se sont appesantis sur l'article 71 alinéa 1er relatif à la réduction à un tour de l'élection présidentielle. Moi, je dis, mais c'est un faux débat. Parce que dans beaucoup de pays du monde, on organise des élections présidentielles à un tour. Et contrairement à ceux qui croient qu'il est impossible pour un candidat d'avoir plus de 20%, parce que s'il a que 20%, il est illégitime, c'est faux. Sur le plan de droit, comme sur le plan politique, c'est faux. Le président Kabila, à les 14 mois, n'avait obtenu que 3%. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le président Kabila n'est pas légitime à l'Équateur. Vous savez qu'il y a une différence nette entre la légalité et la légitimité. La légalité est une notion précise et nette, équivoque, parce que ça répond aux dispositions constitutionnelles légales d'un État. Mais la légitimité, c'est une notion large, imprécise et subjective. Mais qui a dit qu'un candidat ne peut pas avoir plus de 50% au premier tour? Nous, la majorité, nous avons pris un risque grave en ramenant au premier tour, parce que nous pouvons ne pas le gagner.
C'est mardi dernier que la proposition de loi sur la révision constitutionnelle a été jugée recevable par la plénière de l'Assemblée nationale. C'était à l'issue d'un vote en l'absence de l'opposition parlementaire. 354 députés ont voté pour, 2 ont voté contre et 2 abstentions. L'opposition, elle, estime que c'est une question politique, donc l'on peut accepter cette proposition de révision constitutionnelle en ce moment. Et c'est dû décider à empêcher cette révision constitutionnelle. De l'armouille, cette question de révision constitutionnelle a dominé l'actualité toute la semaine. Comment vous expliquez les débats que suscite d'abord l'article 71?
Oui, je crois que c'est le plus important d'ailleurs de tous les articles qui ont été révisés. Tout à l'heure, on vient de nous passer le sénateur Henri Thomas Lokondo qui a dit que c'était un faux débat parce qu'à travers le monde, de nombreux pays organisent des élections présidentielles à un seul tour. Je souhaiterais qu'il me dise ceci. De nombreux pays démocratiques connus et reconnus organisent des scrutins présidentiels à un seul tour. Et que nous avons un exemple. Il n'en trouvera pas. J'en suis sûr qu'il n'en trouvera pas. On parlera des États-Unis peut-être, mais le système des États-Unis est un système bipartisan. Donc il n'y a que deux partis politiques. Donc il y a forcément l'un qui remporte la majorité des suffrages exprimés. Encore que leur système est vraiment différent et unique au monde. Mais qu'on nous trouve un pays démocratique où un président fort, avec une légitimité forte, est élu à un seul tour dans un pays démocratique. Quel est le but recherché? En 2008, le président de la République intervient à l'Assemblée nationale, au Parlement, devant au Congrès. Il y a déjà un remis au ménage au niveau de l'ANP qui veut déjà réviser la Constitution. Le président dit qu'on ne peut pas réviser la Constitution pour n'importe quel petit problème qui survient. On ne peut réviser que dans l'intérêt supérieur de la nation. Aujourd'hui, quel est cet intérêt supérieur de la nation qui peut sous-tendre la zone statique de 111? L'année dernière, en septembre, on a adopté la loi financière pour 2011. En ce compris le budget relatif aux élections à deux tours pour la présidentielle. Aujourd'hui, il faut d'abord voir les raisons qu'on avance pour arriver à cette affaire. D'abord, on nous dit non, ça coûte très cher. Je peux démontrer mathématiquement qu'on ne réduira à peine que ça, c'est d'à peine 20 à 30 millions de dollars seulement. Puis subitement, non, parce qu'il va y avoir la cristallisation sur deux candidats au deuxième tour, créer le bloc Est-Ouest. Mais qui dit que les deux candidats, d'un tour, ne peuvent pas être de l'Est tous les deux ou de l'Ouest tous les deux? Et si par hasard l'opposition décide de présenter aussi un seul candidat, il y aura la même cristallisation, comment l'empêcher contre l'empêcher cette cristallisation-là à ce moment-là?
Yvon Mouya, il n'y a pas d'intérêt qui peut s'étendre la révision constitutionnelle telle que la propose l'ANP.
Il faut d'emblée noter que la révision elle-même, c'est une démarche constitutionnelle. La Constitution prévoit qu'à un certain moment qu'on puisse réviser. Mais mon confrère Bellard a souligné qu'il n'y avait pas d'intérêt général dans cette démarche. Ça reste un débat. Mais moi, je voudrais plutôt constater qu'il est ici question dans les deux camps, opposition comme majorité, de faire des calculs politiques pour remporter le scrutin prochain présidentiel. Je trouve que la majorité au pouvoir a vu les dangers. Il faut le dire clairement. Les choses ont changé, la donne a changé dans le camp opposé.
Il y a
le retour de Ken Tshisekedi, il ne faut pas oublier, qui se lance dans la bataille. Il y a Vital Kamerhe qui a fait des sections et qui se range clairement aujourd'hui dans l'opposition. Alors faut-il laisser les choses aller comme telles? Non, je crois que, en tant que politicien, avec le pouvoir qu'ils cherchent à conserver, ils ont fait ces calculs. En tant que journaliste, il faut le dire clairement. Donc, je crois que
c'était la raison valable qui pousse l'ANP à mener cette démarche.
Franchement, chacun s'organise pour gagner. L'ANP a estimé que ce n'est que par cette voie-là qu'elle peut gagner. Et donc, parce que réviser la Constitution, ce n'est pas la violer, telle qu'une des dispositions de cette Constitution le prévoit. Et donc, ils sont allés dans cette voie-là pour conserver le pouvoir. Je crois qu'à ce niveau, on ne peut pas leur reprocher de pouvoir s'organiser pour garder le pouvoir.
Gaston Moukfid, la nouvelle donne, le retour de Tshisekedi, la défection des caméras, serait des raisons qui ont poussé l'ANP à mener cette démarche qui vise à réviser les 8 articles de la Constitution.
Ça peut être une raison ou ça ne peut pas l'être. Vous le savez bien que quiconque, la Constitution de 18 février 2010 contient pas mal de problèmes. Alors, plusieurs fois, on a tenté de parler de ceci ou de cela qu'il fallait réviser. Mais je voudrais aussi parler de ce que Bellard a souligné tout à l'heure. On a dit que il fallait pas réviser la Constitution parce que l'argent était là et parce que la démocratie... Non, moi je crois que quand on doit comparer, la comparaison n'est toujours pas raison. Dans aucun pays au monde, on a vu la formule 1 plus 4. Cette formule a existé en RDC et a donné bien de fruits. Aujourd'hui, la majorité a estimé qu'il fallait revoir, parce que la majorité prétend qu'il y a un problème de moyens. Celui qui vous donne, il vous commande et vous domine. Au lieu que ces élections soient financées par l'extérieur, si la République peut donner de l'argent qui suffit pour organiser les élections, je crois que l'indépendance, là, pourra être chantée à 100%. Si les opposants voulaient que la démocratie s'exprime, ils n'avaient qu'à exprimer leur voix. Quelle est cette façon-là de faire quand on doit voter une loi, quand on doit voter des propositions, vous sortez de la salle et puis, moi je crois qu'on ne doit pas construire ça comme ça. Il faut argumenter, il faut arriver à convaincre. Moi je ne suis pas d'accord que ça soit des astuces parce qu'il y a Tshisekedi qui est rentré, parce qu'il y a Vital qui est rentré, parce qu'il y a ça. Mais, qu'est-ce qui prouve que la majorité va gagner les élections en demandant des élections à un seul tour? Moi, je crois que l'opposition n'a qu'à se mettre d'accord et s'organiser. Et il n'y a pas de problème. On peut revoir la Constitution. D'ailleurs, cette Constitution n'est pas parfaite, tout le monde le sait. Mais l'essentiel, c'est que l'on travaille. Il ne faut pas avoir peur. De quoi a peur l'opposition pour commencer à sortir de salle et ne pas continuer?
Bernard Bouilly, la proposition de la majorité est constitutionnelle. Pourquoi l'opposition semble s'agiter à votre avis?
Non seulement l'opposition, mais beaucoup de personnes parmi les forces vives.
Pourquoi?
En ce compris le cardinal.
Pourquoi? Parce que la démarche est constitutionnelle.
La démarche peut être constitutionnelle, je n'en dis qu'on ne vient pas. Il s'agit de se poser la question de savoir d'où l'on vient. Nous sommes sortis d'une situation de guerre qui a commencé depuis 1996. Et elle-même précédée par des troubles politiques qui ont commencé depuis 1990. Donc il y avait une crise de légitimité que s'est quand même remontée depuis 60 lorsque Patrice Lumumba a été démis par Kasavubu. Donc à partir de ce moment, pour un pays post-conflit, nous avons besoin d'un certain consensus sur les valeurs cardinales qui fondent notre nation en tant que telle. Et à partir de là, le président de la République doit pouvoir jouir d'une épaisseur de légitimité qui lui permette de fédérer le plus grand nombre autour de son action et de convaincre ceux qui ont perdu qu'effectivement, ils doivent se taire en attendant de le voir terminer son mandat. Mais lorsque, sous le plan du principe, encore une fois, c'est le sénateur Mokondo qui vous dit qu'on ne peut pas remporter dès le premier tour. Mais non, nous sommes sur le plan du principe. Si on avait appliqué ce système en France lors des élections de 95, si vous me demandez, 95, Jacques Chirac aurait été élu président avec 20% exact. Est-ce cela dont nous avons besoin dans un pays comme le nôtre ici, où il y a eu une crise de légitimité qui a duré pendant près de 50 ans? Alors, deuxième chose, c'est de savoir qu'est-ce qui déplaît à notre président de la République. Voilà un président qui a été élu avec 58%, donc près de 60%. Mais qui semble s'en inquiéter, qui dit « Non, mais c'est pas bien. J'aurais préféré juste avoir mes 42 du premier tour. » Donc, c'est comme si il a horreur d'avoir eu la majorité des Congolais derrière lui. C'est bien.
Mais les autres impératifs financiers.
Mais non, mais dans le texte qui a été présenté à l'Assemblée, on n'y a aucun impératif financier. C'est les raisons que ces partisans avaient avancé comme ça. Ça montre un peu un certain désarroi, même dans la conception de ce qu'ils vont présenter. Dans le texte qu'ils ont présenté, ils ont juste parlé qu'il faut éviter la cristallisation sur deux candidats, juste pour que le pays encore entre deux blocs, Est et Ouest. Mais l'on ne nous dit pas ce qui adviendrait si l'opposition présentait aussi un seul candidat qui est de l'Ouest. Et alors, cette élection aura encore lieu.
Yvon Mouya, que peut-on faire pour obtenir un consensus autour de cette question de révision constitutionnelle?
Ben, c'est de continuer à discuter, mais je crois que là, l'opposition a raté l'occasion d'expliquer à l'opinion ce qui ne va pas, l'occasion pour dénoncer ce qu'elle a estimé être comme violation de cette constitution en claquant la porte au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, mon confrère Gaston l'a souligné, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je crois que c'est comme celui du Sénat, donne l'occasion aux élus d'aborder un débat même dans une langue, l'une de nos langues nationales. On envoie assez d'autres questions à l'hémicycle, on fait appel au Lingala, à d'autres langues, pour expliquer à l'opinion pourquoi sortir, c'était l'occasion. Et moi, je crois que le consensus que vous demandez là pouvait venir par là, parce que tout le monde aurait eu l'occasion de savoir ce qui ne va pas et la démarche abusive entamée par la majorité. Et donc je crois que c'est à travers la discussion qu'il pourrait faire. Alors, Gaston dit que la majorité peut aussi perdre au premier tour pour voir l'opposition s'agite. Non, je crois que je renseigne même avec ce que Bélard a dit. Le pouvoir, c'est que l'opposition sera désorganisée jusqu'au bout. Parce que sa mère est en face. C'est sa première fois de postuler, de s'essayer comme candidat à la présidence.
Il n'a pas encore dit formellement.
Il a dit qu'il attend d'être investi par le Congrès. Alors, Vous voyez quelqu'un qui veut se séparer parce qu'il ne connaît même pas encore la mesure qu'il a en tant que candidat à la présidence. Il a l'occasion de s'essayer pour éventuellement s'associer à un Tshisekedi ou quelqu'un d'autre au deuxième tour. Et à ce niveau-là, l'AMP table sur cette division qui sera forte au niveau de l'opposition. Donc l'opposition pouvait saisir l'occasion, discuter au lieu de claquer la porte.
Gaston Moussuid, un autre article concerné par cette révision, c'est l'article 110 relatif à la fin du mandat des parlementaires, c'est-à-dire que le parlementaire qui est nommé à des fonctions telles que celle de ministre pourra revenir au Parlement et s'il quitte le gouvernement. Et en proposant cette révision, l'ANP pense que c'est le parlementaire qui détient le mandat du peuple et non le citoyen. De ce point de vue, l'ANP n'a-t-elle pas raison?
Je ne vais pas m'empresser de dire que l'AMP a raison ou pas. Parce que le problème en RDC, c'est quoi? C'est que les lois, quelles soient, sont votées par des gens, sont initiées par des députés. Un député a initié tel projet, ainsi de suite. Aujourd'hui, on est en train de calquer. Moi, je crois que s'il y a un besoin, aujourd'hui, il y a des gens qui sont allés dans le ministère, qui doivent revenir parce qu'il y a leur suppléant et qui pensent qu'ils ne peuvent plus rentrer aux affaires et gagner de l'argent. Ils sont en train de travailler là-bas et changer cette disposition constitutionnelle. Je crois que le débat est là. L'Assemblée n'est pas toujours détenue par la majorité. Il y avait l'opposition. C'est passé mardi. Hier, c'est passé au Sénat. Je crois que, acceptons ce qui s'est dit, parce que demain, ça ne sera pas eux qui ont fait ça, ça sera nous ou quelqu'un d'autre. Il ne faudrait pas refuser parce que c'est elle, mais le jour où vous allez avoir besoin de faire voter des lois, ça vous complique la vie.
De l'harmonie par rapport à l'article 110 relatif à la fin du mandat des parlementaires.
Franchement, c'est une révision, franchement, de type, comment je dirais, un peu corporatiste. On se serre un peu les rangs, on se dit, dès que nous perdons les postes, il faudra vraiment que nous puissions les récupérer. Mais malheureusement, la plupart des gens qui ont voté là, combien sont sûrs de pouvoir revenir? C'est ça le drame. Fallait-il vraiment changer la constitution en être sûr de pouvoir revenir? Ça me surprend, d'autant plus que l'homme qui le premier avait donné cette idée-là en 2008, c'est le professeur Soubang Oukalala, qui assez curieusement n'a pas signé parmi ceux qui ont réclamé la révision cette fois-ci. C'est quand même assez étonnant. Mais ça, je considère ça comme assez dérisoire. Ce que je trouve beaucoup plus grave, c'est les articles 197 et 198, si
tu me permets. Relatifs au fonctionnement des institutions provinciales.
Par exemple, donc, on permet au président de la République de dissoudre une assemblée provinciale
qui a pris ou de mettre fin au conseil du gouvernement.
Gouverneur de province. Mais enfin, si Moïse Tshombe vivait encore, je crois, même s'il est mort là où il est, il se retourne dans sa tombe. Comment? Nous avons connu dans ce pays des sécessions dues au fait que beaucoup de provinces tiennent quand même à leur autonomie, à ce que les provinces puissent être respectées dans leur personnalité juridique. À quoi sert-il de dire qu'une province détient une personnalité juridique si un gouverneur élu par une assemblée, qui joue donc d'une réelle légitimité tierce, peut être relevé de ses fonctions par un président de la République qui a une autre légitimité? Ça n'a aucun sens. Et cela pêche même contre le principe de parallélisme de forme. Donc, c'est une assemblée législative normale, normalement constituée, qui vote un gouverneur, et c'est un président de la République qui vient le révoquer. On ouvre la voie à toutes les ennemis possibles, parce qu'il suffit qu'un gouverneur ne soit pas de votre obédience, pour que vous le renversiez, vous lui mettez sous pression, change de temps jusqu'à ce enlevé.
Les auteurs de cette proposition souhaitent accorder ce pouvoir au chef de l'État en cas de crise politique grave qui menace le fonctionnement régulier des institutions provinciales. Si on prend le cas de la ville province de Kinshasa, où il y a une crise qui perdure depuis plusieurs mois, face à une telle situation, faut-il rester passif? Faut-il agir? Qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis?
Il n'y a pas de crise à Kinshasa. C'est ça le problème, justement. Le problème est celui-ci. Lorsqu'on doit réviser certains articles de la Constitution, il faut vraiment qu'on les ait éprouvés et qu'on ait compris, franchement, que ça pose problème pour leur application.
Lorsqu'on dit qu'il
n'y a pas de crise à Kinshasa, il n'y a pas de crise parce qu'il y a une majorité qualifiée, claire et nette, franche et massive, qui a décidé de démettre le président de l'Assemblée provinciale. Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que le même pouvoir qui est en train de réviser les articles de la Constitution ici empêche par la force
que cette volonté des élus puisse s'appliquer. C'est tout simplement cela, parce que
ça va qualifier cela de crise.
Non, en fait, c'est une situation délibérément créée par le pouvoir. Parce que M. Singh a beau être Dieu merci, aujourd'hui, il est passé, il a traversé la route, il est dans le camp de l'ANP, voilà pourquoi on le maintient de cette manière-là.
Pour cela, restez-vous. Yvon Mouya, par rapport aux articles 197 et 198 relatifs au fonctionnement des institutions provinciales.
Mais c'est vrai que. Il y a crise à Kinshasa, Bélarme, oui. Lorsque, depuis plusieurs mois, cette Assemblée provinciale ne s'est réunie plus, peut-on dire que ça fonctionne? Non. Nous, au niveau de notre rédaction, on a même pris l'initiative de nous pencher sur cette question pour voir ce qui se passe dans cette Assemblée. Alors, il faut souligner que dans la révision proposée, on a tenu un peu. Le chef de l'État ne prend pas seul l'initiative de relever ses fonctions à un gouverneur ou de dissoudre l'Assemblée. Il le laisse faire après délibération au Conseil des ministres et aussi après l'avis des deux chambres. Donc, il n'a pas un pouvoir aussi direct comme ça de le faire. En même temps, il faut souligner qu'on a pris ça après toutes les crises qu'on a enregistrées, non seulement à Kinshasa, mais on a connu la province. Du Kassai occidental, la province de l'Équateur. Donc, il était nécessaire
aussi,
le Katanga. Donc, après avoir constaté une crise, on a souligné très bien, le chef de l'État peut intervenir pour que cela cesse.
Gaston Moussid, vous êtes à Kolwezi, dans la province du Katanga. Et lorsqu'on parle des problèmes qui touchent au fonctionnement des institutions, des fois on cite aussi la province du Katanga. Comment vous analysez cette proposition des révisions des articles 197 et 198 de la Constitution?
C'est justement là où se pose le problème. Vous savez, quand est-ce que les Congolais, beaucoup d'ailleurs, ont décidé de voter oui aux élections référendaires? C'est notamment parce que cette constitution prévoyait une certaine autonomie, bien que ce n'était pas le fédéralisme, mais on a senti qu'il y avait une autonomie des provinces. C'est même la raison qui a fait que beaucoup des Katangais ont accepté de voter oui à cette constitution. Mais si aujourd'hui on va nous appeler à écouter, à suivre une certaine constitution qui devra donner beaucoup plus de pouvoir à la présidence de la République, qui devra de mettre les gouverneurs élus démocratiquement. Je crois que là, c'est un problème qui ne va pas beaucoup plaire, pas seulement les Katangais, mais les gens de province. Parce que Kinshasa, comme vous le savez, est très loin. Nous sommes dans un pays continent. Mais comme le dit où j'habite, à Kinshasa, il me faut deux avions. Donc je dois prendre un avion vers Lubumbashi et Lubumbashi vers Kinshasa. Quand est-ce que je vais aller là-bas poser mon problème pour qu'il soit connu? C'est comme ça que les gens ont pensé que les provinces pouvaient jouer ces rôles-là. Mais quand on doit revoir des articles comme ça, moi je crois qu'il se posera un problème qui ne va pas beaucoup arranger les gens de l'intérieur, comme vous nous appelez, hein, les gens de province.
Oui, les auteurs de cette proposition affirment que ces révisions ne vont en rien préjudicier les pouvoirs reconnus aux provinces.
Oui, mais ce qu'ils disent, mais les cas de Kinshasa dont vous parlez, c'est un cas sur 11 provinces. Donc ce n'est pas qu'il se pose un problème dans le gouvernement provincial de Kinshasa qu'il faut nécessairement réviser la constitution sur cet article pour prendre ça comme échantillon. Moi, je crois que ce n'était pas trop réfléchi que de penser que le président pouvait démettre les gouverneurs, parce que là, ça diminue un tout petit peu le mouvement de réaction, ou ça diminue un peu la force de la province par son gouverneur.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Insécurité à l'université de Kinshasa, deux morts et d'importants dégâts matériels, tel est le bilan des insurgés entre étudiants et policiers hier jeudi sur le site de l'université de Kinshasa. Les étudiants ont protesté suite au décès de l'un des leurs, trouvé mort et pendu à un arbre hier jeudi matin. Une deuxième victime en l'espace d'une semaine, en cherchant à rétablir l'ordre public sur le site universitaire. La police a rencontré une vive résistance des étudiants. temps. Cependant, le calme est revenu à l'université de Kinshasa. Les dégâts matériels sont importants. En ce qui concerne le bilan humain, le porte-parole du gouvernement qui intervenait hier sur les antennes de la télévision nationale a parlé des deux morts, chiffres non confirmés jusqu'ici par des sources indépendantes. On écoute le ministre Lambert Mende dans cet extrait recueilli par Georges Kamoudjova sur la RTNC.
Le bilan des événements qui se sont déroulés à l'université de Kinshasa se présente de la manière suivante. 14 véhicules ont été incendiés, 2 bus servant au transport de personnes de l'université de Kinshasa incendiés, mise à sac et pillage de la résidence du recteur de l'université, pillage également d'un conteneur dans lequel se trouvaient 500 ordinateurs et accessoires informatiques, dont de la coopération sud-coréenne à l'université de Kinshasa. Et dans la tentative de sauvegarder ces biens contre les pillards, 2 personnes blessées par balle parmi les pillards auraient succombé par la suite au cours de leurs soins à l'hôpital. L'incendie également de 2 stations-service, dont une en construction au niveau du lieu dit intendance générale de l'université de Kinshasa et mise à sac au niveau de l'intendance générale d'une pharmacie. La police a dû intervenir et à la suite de l'intervention de la police nationale, le calme est revenu sur le site universitaire.
Pour la sécurisation, nous pensons ne pas permettre qu'il y ait une descente sur la ville. Ces propos sont ceux du numéro 1 de l'inspection provinciale de la police nationale. Selon le général Oleko, des précautions sont prises pour déployer la police aux alentours de l'unité, porter les cas échéants. S'il arrive qu'on ait besoin de la police, celle-ci pourrait intervenir rapidement. Bélard Mouilly, je rappelle que vous êtes éditeur du magazine Écho de Grand Lac, c'est un magazine qui paraît ici à Kinshasa. Comment vous, vous réagissez face à ces événements qui se sont produits hier au site universitaire de Kinshasa?
Bon, rectifiant d'abord, ce n'est plus tellement le magazine, c'est le journal tabloïd ordinaire, comme vous l'avez sous les yeux là.
Merci pour la précision.
Oui, oui. Bien, voilà, je constate d'abord une chose que le ministre de l'Information, M. Lambert Mende, commence à nous parler de bus incendiés, puis de pillages, puis de saccage de maisons. Les morts, il n'en parle qu'en dernier lieu et encore au conditionnel. C'est-à-dire que vous voyez combien la vie humaine est importante pour les dirigeants du Congo. Plus important, c'est les bus incendiés, les maisons pillées, tout ça. Non, j'ai noté bien quand il parlait. 14 bus incendiés, pillage des ordinateurs, saccage des maisons, de ceci, cela. Les morts n'en parlent qu'en dernière position. Quand les Congolais sont tués, c'est le plus important. En France, il y a eu la révolte des banlieues. Ce n'était pas 14 bus qui ont été incendiés, c'était des centaines de milliers de véhicules qui ont été incendiés. Il n'y a eu aucun mort. Et cela a duré plusieurs mois. Il n'y a eu aucun mort. Pourquoi? Parce qu'on ne tire pas à balles réelles sur les populations civiles. Vous savez, moi j'ai eu la chance d'aller visiter l'académie de la police métropolitaine de Londres. Vous savez, la police de Grande-Bretagne n'utilise pas des armes, ils n'ont que des matraques, mais c'est parmi l'une des plus efficaces du monde. Le commandant de cette école nous a dit, c'était une insulte pour le Congo, il a dit ceci, n'imaginez pas qu'il n'y a que nous qui pouvons vous apprendre des choses, vous aussi pouvez nous apprendre certaines choses. Par exemple, nous ne savons pas tirer, mais chez vous, il semble que quand il y a moins de manifestations, vos policiers tirent tout droit dans la tête du manifestant, vous aussi nous apprendre le tir. C'était une insulte en présence d'une grande autorité du pays.
Nous allons lire les unes de certains journaux. Nous avons ici le quotidien La Référence Plus qui dit « Bilan des incendies d'hier au campus de l'Université de Kinshasa, plusieurs morts et d'importants dégâts matériels ». Nous avons le quotidien Le Palmarès qui dit « Distinction entre étudiants et forces de l'ordre, des morts et des dégâts matériels ». Le quotidien Observateur dit « Après la découverte du corps d'un autre étudiant assassiné, distinction hier à Kinshasa ». Forum des As, c'est aussi un quotidien, dit « Avec deux morts et d'importants dégâts matériels enregistrés hier, une mémoire à l'unitime ». Le quotidien L'Avenir dit aussi « Thierry à l'unitime, les politiciens pointés du doigt ». Vous pensez que, Yvon Mouya, vous pensez qu'il y a une mémoire?
Dans les conditions dans lesquelles cela s'est passé, c'est difficile de le dire. Mais moi, j'aimerais plutôt revenir sur le débat tout à l'heure des personnes tuées. Là, je rejoins Bélard, journaliste ou pas, quand il y a mort, il faut commencer par là. Là, franchement, le gouvernement a donné l'intention d'aborder cette question avec les Jacques. Alors, mais noir derrière ce qui se passe à Vimikin, on ne sait pas, mais il y a un problème sérieux d'insécurité là-bas. J'ai dénoncé ça le jour où le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire s'est rendu pour aborder la question de l'insécurité, alors qu'on venait de ramasser un corps sur le campus. Les étudiants se sont plaints. Il se limite à constituer un comité, une cellule de crise, semble-t-il, avec le comité de gestion, et ça s'arrête là. Nous avons attendu de voir le responsable du secteur de sécurité, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, se mobiliser à son tour, non. Et après, l'inévitable est arrivé. Je crois que cette question a été mal gérée. Et après, dans un contexte de débat politique que nous venons d'évoquer, une seule étincelle peut déclencher le feu. Voilà ce qui se passe. Les politiciens peuvent effectivement récupérer, mais rien ne le permet à ce stade de le déterminer.
Donc, cette situation pourrait être aussi consécutive à la manière dont ce problème a été
géré. Très mal géré. On ramasse un corps bien avant cela et on constitue une cellule de crise partie par le ministre de l'Enseignement. C'est vrai que ça se passe dans un secteur qui est dans sa juridiction, mais il fallait associer tout de suite les responsables de sécurité. Est-ce que cela a été fait? Je ne pense pas. Je crois que ça a été une légèreté qu'il faut souligner ici.
Gaston Moussid, cette situation ne serait-elle pas aussi la manifestation d'un mécontentement par rapport aux conditions de vie, les conditions d'insécurité du site? Souvent, il y a des coupures intempestives des courants et d'eau.
C'est justement ça. On dit à l'abondance du cœur, la bouche part. Si les étudiants se sont révoltés parce qu'ils en avaient ras-le-bol. Moi, je suis tout à fait d'accord que les étudiants voulaient exprimer là un problème qu'ils avaient déjà dans le cœur. Mais je vais, comme Bélard ou Yvon, parler un tout petit peu de la façon de garder ou de contenir de masse. Le ministère de l'Intérieur devrait, à mon avis, doter la police de balles à blanc, de gaz lacrymogène, pour pouvoir faire face à des manifestants. Nous les remarquons partout ailleurs, même à Colusie ici. Par plusieurs fois, il y a des manifestations des 13 heures et la police, n'ayant pas le moyen de maîtriser les mouvements, utilise par moments de balles réelles, ce qui tue. Par plusieurs fois, on en a entendu parler. Moi, je crois que, comme ailleurs, la police doit être dotée d'équipements qui lui permettent de faire face à des manifestants en colère. Donc là, il ne faudrait pas leur donner des armes de guerre, mais des cartouches pour pouvoir faire face à des gaz lacrymogènes. Ensuite, il se pose un problème. Au Congo démocratique, ça nous a coûté deux années et des années. Nous avons détruit ces Congos depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, quand on commence à reconstruire, moi, je me plains contre ces actes de barbarie qui consistent à mettre feu à des patrimoines. On a brûlé des ordinateurs, on a brûlé des véhicules, on a brûlé les bâtiments, les maisons. C'est comme ça que du jour au jour, nous sommes en train de détruire ce pays. À Tessin, par exemple, les manifestants, les créseurs étaient mécontents, ils ont brûlé des remorques, ils ont brûlé à l'Olaba des tracteurs, et c'est comme ça que nous détruisons ce pays. Moi, je crois que quand il y a un mécontentement, il y a bien de manières de revendiquer. Et je ne vais pas apprendre aux étudiants de l'UNICI comment est-ce qu'on peut revendiquer. Et il y a énormément de voies et moyens pour revendiquer sans casser. Parce que quand on casse, demain, il faut reconstruire. Et quand on reconstruit, et ce n'est pas toujours évident.
Yvon Mouya, quel pourrait être l'impact de cette manifestation sur les comportements des décideurs de ce pays?
Il faut que les décideurs réagissent tout de suite avec des mesures concrètes. Il faut donner un signal fort aux étudiants pour les rassurer. Parce que ce matin, j'apprenais, je n'ai pas vérifié, qu'ils s'apprêtaient à se mobiliser et même appeler d'autres étudiants des autres institutions. Donc il faut tout de suite les rassurer après tout ce qui vient de se passer.
De l'harmonie, que proposez-vous pour prévenir ce genre de situation?
D'abord, il faut leur assurer la sécurité. C'est la chose qu'ils demandent le plus, c'est cela. C'est quoi le moindre de droits qu'ils peuvent revendiquer. Deuxièmement, Je vais quand même faire un petit parallélisme avec un autre pays de notre continent, la Tunisie, où il n'y a pas longtemps, c'est parti d'un petit siècle, comme nous disons ici, à qui on a ravi ses marchandises et qui s'est immolé par le feu. Tout le pays a commencé à manifester petit à petit. Ça, c'est la capitale. Et la police est allée tirer comme c'est de coutume en Afrique. Hier, le président Ben Ali, pour la première fois, a dit « J'ai ordonné à la police de ne plus tirer à balles réelles sur la population civile. » C'est la phrase que j'aimerais entendre de la bouche de nos dirigeants ici au Congo, au lieu de venir nous parler de bus incendiés.
Gaston aussi de...
Moi, je crois que, et un peu comme avec Bélard, moi, je me dis que les autorités qui ont la police en leur charge, notamment le ministère de l'Intérieur, doivent faire de sorte que la police ne tire pas sur des manifestants. C'est antidémocratique. Les manifestants qui ont des revendications à faire passer doivent être écoutés. Et à la rigueur, s'il y a débordement, on utilise des balles à blanc, on utilise des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Partout dans le pays, on a déploré les morts de personnes tuées par la police. Ça n'est trop. Moi, je crois qu'il faut prendre des mesures et éviter ce genre de tuerie.
Yvon Mouya, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision Digital Congo qui émet depuis la ville de Kinshasa. Quelle est votre conclusion?
Je voudrais que l'opposition par rapport à la révision de la Constitution essaye d'engager son dernier combat au niveau du Congrès, c'est déjà tard pour elle, malheureusement, et de faire passer le message qui consisterait à dire que nous aurons fait pour sauver ce qu'elle a considéré comme une violation. Et ça n'a pas marché. Au lieu de se retirer, c'est pas bon. Et après, s'organiser pour proposer un candidat, par exemple, pour remporter le scrutin. Par rapport à la situation à Guinée-Kin, on l'a dit, tout le monde l'a dit, il faut un signal fort, il faut un mot peut-être du chef de l'État, de son gouvernement, il faut envoyer une délégation à l'UNIKIN, il faut résoudre le problème d'insécurité, ça peut embraser le pays, mais plus que par cette petite manifestation des étudiants.
Delambouille, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Écho des Grands Lacs qui paraît ici à Kinshasa. Quelle est votre conclusion?
Bien, pour la révision constitutionnelle, j'aimerais peut-être poster la conclusion pour placer un petit mot, parce qu'on n'a pas abordé ça. Je crois qu'il y a aussi l'article 149 qui a été révisé. C'est quand même quelque chose de très important. Face à cela, pendant la transition plus 4, je me souviens que c'était le député Chérubin Okende qui avait initié la loi sur la magistrature. Et cette loi, ne serait-ce que sur le plan de principe, faisait de notre justice l'une des plus indépendantes du continent africain. Mais là, on vient de réviser cet article pour replacer le parquet sous la tutelle du ministère de la Justice. Ça, c'est franchement un recul grave, parce que ça fait des procureurs, des agents du ministère de la Justice, et leur indépendance est vraiment entamée sur ce point-là. C'est encore un recul. Je ne comprends pas vraiment le bien fondé de telles révisions.
Et par rapport aux événements de l'université de Kinshasa?
Par rapport aux événements, j'aimerais dire que nul n'encourage les casses. Il ne faut pas casser, il ne faut pas incendier, il ne faut pas faire du vandalisme. C'est tout lorsqu'on est des intellectuels, c'est vrai. Mais il faut savoir qu'à travers le monde entier, les manifestants, il y a toujours des casseurs qui se glissent parmi eux. Et qu'il y a beaucoup d'armes dont peuvent disposer une police, notamment les boucliers. Vous voyez le bouclier là en vitre. C'est parce que on sait que les manifestants peuvent toujours lancer des pierres. Ça permet de protéger les policiers des blessures. Et puis des gaz lacrymogènes, des cartouches à blanc, comme a proposé Gaston. Je crois que c'est comme ça que ça se fait. On doit cesser de tirer à balles réelles sur les civils dans ce pays. Trop de morts, ça n'est trop.
Gaston aussi, je rappelle que vous êtes directeur de la radio-télévision Manika, et maintenant depuis la ville de Kolwezi au Katanga. Comment vous concluez?
Voilà, moi je demande à l'opposition de recourir à cette adresse qui dit que lorsqu'on n'a pas ce qu'elle aime, il faut aimer ce qu'elle a. Aujourd'hui c'est trop tard. La révision constitutionnelle a été acceptée par les deux chambres, donc aujourd'hui l'opposition doit savoir à parler un même langage. Sur le deuxième sujet, j'aimerais demander à ce que le ministère de l'Intérieur s'occupe de la police. La police a pour mandat de garder la population civile et ses biens. il est sur les manifestants et contre les objectifs primordiaux de la police elle-même. Donc la police doit protéger la population civile, pas la tuer.
Merci, c'est la fin de cette émission. Willem Lungamba était à la technique, Alain Rung à la réalisation, assisté de Samuel Kachak et de Kélien Kouté, sous la supervision de Télé-Kipela Mondo, devant ce micro Guy Maté, meilleurs vœux pour cette année 2011 et bonne suite du programme sur Radio Okapi.
Okapi, okapi.